Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour, nous allons passer un petit moment autour du dernier ouvrage de Bernard Rimet. Ce livre s'intitule « Le partage social des émotions ». Il est publié aux presses universitaires de France. Bernard Rimet est un universitaire, professeur à l'université de Louvain en Belgique, dans le département de psychologie. Il est cofondateur de l'unité de recherche émotions, cognition et santé. Il est également l'ancien président de l'ISRE, l'Association internationale pour la recherche sur les émotions. Les émotions n'ont pas toujours représenté un objet d'étude digne d'être enseigné en université. Ainsi, lorsque le jeune Bernard Rimet, se lançant dans des études de psychologie, croyait y trouver une occasion d'approfondir son intuition sur les émotions, il n'a pas trouvé la matière qu'il cherchait. Or, depuis son enfance, Bernard Rimet avait observé ce qu'il appellera plus tard le partage social des émotions.
Les origines de mes intérêts pour ces questions sont très lointaines. Ils trouvent leur source dans l'un des tristes épisodes de l'histoire du XXe, celui de l'exode spontané et massif de populations de la Belgique et du nord de la France lorsque les divisions nazies envahirent ces régions à la vitesse de l'éclair en mai 1940. Mes parents et leurs proches étaient de l'aventure. Comme tant d'autres, en l'espace de quelques heures, leur existence bourgeoise, ordonnée et insouciante, a basculé et ils se sont retrouvés dans l'œil du cyclone, sur les routes surchargées, traversées par les colonnes ennemies, bombardées par les avions, dépourvues de nourriture, sans abri, rejetées par les habitants restés sur place, exposées à la mort et à la dévastation, et finalement arrêtées et séparées. Ils eurent, eux, la chance d'en sortir et de regagner leur foyer un peu plus tard. Né à la fin de cette guerre, j'ai, avec les membres de ma fratrie, connu une enfance émaillée par le récit des moments critiques de cet épisode qui, pour leurs acteurs, demeurerait le pire de leur existence. Chaque réunion de famille, et elles étaient hebdomadaires, entraînait immanquablement un ressassement collectif de ces souvenirs traumatiques. Et nous, les enfants, nous assistions au rappel rituel, nous l'écoutions avec fascination et nous nous interrogions en silence sur les raisons pour lesquelles ces mêmes histoires revenaient toujours. Pourquoi ces épisodes du passé les hantaient-ils à ce point? Pourquoi voulaient-ils s'en souvenir et se les rappeler mutuellement alors que nous n'y voyions que des moments épouvantables? Pourquoi ces réévocations en commun s'achevait-elle souvent dans les rires, comme s'il y avait dans tout cela une dimension de blague.
À la fin des années 70, lorsque Bernard Rimet termine ses études, la recherche fondamentale sur les émotions connaît un tournant important avec le retour de l'intérêt pour l'expression faciale de l'émotion, une approche darwinienne de la question. Plus largement, la recherche portait surtout sur la communication non-verbale dans les relations interpersonnelles. Bernard Rimet s'est joint à ce mouvement d'études. Il trouve l'occasion d'approfondir la question du partage social de l'expérience personnelle par le corps. Dans les années 80, le processus de l'émotion pure est revenu dans le champ de recherche fondamentale. À cette période, Bernard Rimet est amené à travailler avec Klaus Scherrer, professeur de psychologie à l'Université de Genève. Il intègre son réseau européen de chercheurs qui mènent une étude comparative de l'expérience émotionnelle dans les différents pays d'Europe. Voilà donc comment Bernard Rimet est amené à étudier pendant des dizaines d'années le ressassement des expériences émotionnelles, leur verbalisation et leur partage en société. Alors venons-en au livre de Bernard Rimet, Le partage social des émotions. Et d'abord, qu'est-ce qu'une émotion? De nos jours, le terme émotion est omniprésent dans notre vie sociale. Elle est même instrumentalisée dans les médias et la publicité. Pourtant, le terme émotion n'a pas toujours connu ce succès. Avant le XVIIe siècle, ce mot était absent du dictionnaire. Émotion, au XVIIe siècle, désignait des manifestations populaires, des agitations collectives, ce qu'on appellerait émeute aujourd'hui. D'ailleurs, émeute et émotion ont la même étymologie. Puis le terme se restreint à l'individu pour perdre petit à petit son sens collectif. Aujourd'hui, l'acceptation du mot « émotion » se rapproche du terme « pathos », tel qu'il était compris chez les Grecs. D'ailleurs, il est curieux de relire les écrits d'Aristote, premier auteur à avoir décrit le phénomène des émotions. Son analyse des phénomènes émotifs est frappante tellement il colle en tout point à ce que l'on peut observer aujourd'hui. Ce texte fait partie du recueil appelé « La rhétorique » d'Aristote.
Nous nous mettons toujours en colère contre ceux qui se prennent à rire en notre présence, ou qui se moquent de nous ouvertement, ou bien qui nous attaquent avec des railleries piquantes. Contre les personnes qui parlent mal de nous, ou qui nous méprisent dans les choses dont nous faisons notre occupation principale. Contre ceux qui, après avoir reçu quelques plaisirs, sont assez ingrats pour nous abandonner dans l'occasion ou qui ne font pas autant pour nous que nous avons fait pour eux. Contre ceux qui ont des desseins contraires aux nôtres. Contre nos amis lorsqu'ils ne disent pas du bien de nous ou qu'ils n'ont pas soin de nous obliger, mais bien plus incomparablement lorsqu'ils font tout le contraire ou qu'ils ne s'aperçoivent pas de notre besoin. Contre les personnes qui se réjouissent de nos disgrâces et généralement contre tous ceux qui ne sont point touchés des malheurs qui nous arrivent. Contre ceux qui ne se soucient pas de nous fâcher, et c'est pour cela que le message des personnes qui apportent de mauvaises nouvelles est toujours si mal reçu. Contre ceux qui écoutent le mal qu'on dit de nous ou qui sont attentifs à regarder celui qui nous est arrivé. Contre ceux qui nous offensent, nos pères et mères, nos enfants, nos femmes, nos domestiques et tous ceux qui dépendent de nous. Contre ceux qui sont insensibles à nos bienfaits et qui ne nous en savent pas gré. Contre ceux qu'on aperçoit se moquer dans le temps qu'on pense traiter sérieusement avec eux. Contre les personnes qui se montrent obligeantes et font du bien à tous les autres, excepté à nous.
Après donc cette définition de la colère d'après Aristote, voici maintenant la définition que Bernard Rimet donne à l'émotion. C'est un état affectif dont l'installation est automatique et qui s'impose au sujet. Cet état affectif comporte de manière intrinsèque soit le plaisir, soit la peine. Dans la gamme des états affectifs, l'émotion est la plus saillante et la plus spectaculaire, en comparaison avec des sentiments comme l'humeur ou le tempérament qui sont moins intenses, plus diffus. Bernard Rimet s'attache ensuite à décrire comment une personne ayant expérimenté une émotion sera amenée à la décrire auprès de personnes plus ou moins proches. L'émotion suscite une expression verbale et une communication sociale systématique et intensive. C'est le partage social des émotions. Or, une émotion est marquée par une rupture de continuité dans la relation entre l'individu et son milieu. Une émotion exprime la surprise devant un élément changeant de son environnement familier. L'individu ne dispose pas alors des éléments nécessaires de compréhension et d'action pour y répondre. Et inversement, un individu peut connaître un besoin, un désir, une aspiration qui ne rencontre pas, dans la situation présente, les conditions de son accomplissement. Autrement dit, il y a deux sources d'émotions, quand quelque chose que l'on n'attendait pas se produit ou quand quelque chose qu'on attendait ne se produit pas, selon la formule de Georges Mandler. Sachant que l'individu et le milieu connaissent sans cesse des variations, les possibilités d'émotion sont donc infinies. Lorsque les ressources nécessaires pour rétablir la continuité entre l'individu et son milieu paraissent possibles, les émotions positives, du type curiosité, intérêt, joie ou même hilarité, permettent de remettre les choses en ordre. Au contraire, lorsque ce rétablissement paraît hors d'atteinte, les émotions négatives, du type peur, panique, détresse, favorisent la prise de distance, le renoncement et le passage à une autre situation stable et compréhensible. Mais revenons d'abord au partage social des émotions.
En 1910, un séisme majeur a dévasté la ville de San Francisco. William James en fut un témoin direct. Dans sa correspondance, il a fait part de certaines de ses observations à propos de cette catastrophe à son collègue français Pierre Janet. Le père de la psychologie américaine y insistait particulièrement sur le besoin que manifestaient les sinistrés de parler de leur expérience du tremblement de terre et de communiquer leurs impressions interminablement. C'était au point, disait-il, que dans les tentes qui avait été dressé pour servir de refuge, il était impossible de dormir pendant la nuit à cause du bavardage continuel.
L'expérience courante révèle que les personnes qui ont vécu un événement émotionnel majeur ont un besoin parfois insatiable d'être écoutées, de parler et de reparler de cet événement, tout comme Bernard Rimet l'avait remarqué dès son enfance lors des repas de famille. Mais ce phénomène ne se limite pas à des événements émotionnels de grande ampleur. Les conversations les plus communes sont émaillées du récit d'épisodes émotionnels. Le partage social d'une expérience émotionnelle réactive certains éléments de cette expérience par des images mentales ou des sensations corporelles. Le paradoxe est que lorsqu'une émotion négative est racontée, cette évocation n'entraîne pas les sentiments d'aversion qui étaient ressentis au moment de l'émotion. Qu'il s'agisse d'une émotion positive ou négative, partager cette émotion semble toujours une opportunité que les personnes recherchent volontiers. Alors qu'en est-il du récepteur, celui qui écoute le récit d'un événement émotionnel ? Il semble qu'au puissant besoin de parler corresponde un grand intérêt d'écouter. Le récit d'une émotion exerce la fascination. Pourquoi ? Dès l'enfance, les individus sont fascinés par les récits, d'autant plus qu'ils sont extraordinaires, merveilleux, grotesques et horribles. À l'âge adulte, cette fascination se perpétue sous la forme de romans, de comédies, de poésies, de cinéma ou encore de photographies. Lorsqu'un accident se produit, par exemple, les badauds, les curieux, se précipitent pour voir une tôle ondulée, des victimes en détresse, des secours à l'œuvre, et souvent cette fascination est suivie de l'effroi d'avoir vu plus qu'il n'en fallait. Ces événements fascinent par leur nouveauté et leur incompatibilité avec les informations habituelles. En même temps, l'individu demeure à distance de l'événement réel. La distance peut être créée par l'intermédiaire d'un récit, d'un roman ou de tout média. Loin du danger immédiat, l'imagination et l'activité symbolique ont donc libre cours. Si le partage social de l'émotion se déroule harmonieusement, c'est-à-dire si l'auteur éprouve de l'intérêt et de l'empathie, et que celui qui exprime cette émotion reçoit de l'attention, voire une aide ou un soutien, alors les liens socio-affectifs entre les personnes sont consolidés. Toutefois, si à l'écoute du récit, l'effroi l'emporte sur la fascination, l'auditeur atteint certaines limites et n'est plus en mesure d'écouter. Une personne souffrant d'une maladie bénigne sera mieux écoutée qu'une personne souffrant d'une maladie grave. L'auditeur est prêt à recevoir une émotion négative du moment où la proportion négative ne dépasse pas l'intérêt qu'elle suscite. Une personne frappée par le destin rappelle à chacun sa propre vulnérabilité. C'est là une raison majeure de prise de distance et de refus d'écoute du partage social de l'émotion. En outre, lorsque la personne en détresse est un proche, elle rappelle à son entourage sa propre vulnérabilité d'une manière plus puissante qu'à une personne éloignée ou inconnue. Pourtant, nous partageons plus facilement nos émotions avec nos proches qu'avec des personnes inconnues. Sur un lieu d'accident, Bernard Rimet remarquait que les badauds amassés autour du véhicule téléphonent à leurs proches sur leur téléphone portable pour raconter l'événement en direct, au lieu de communiquer avec les autres personnes qui, comme elles, observent la scène. Bernard Rimet s'attache ensuite à analyser comment l'information émotionnelle se propage au-delà du cercle des proches ou comment se crée une légende.
En Belgique, en 1989, un ancien Premier ministre nommé Paul Vandenbrunans fut enlevé. Trois hommes dissimulés dans son garage l'ont brutalement assailli et emmené alors qu'il quittait sa voiture. Quelques jours plus tard, une demande de rançon est parvenu à sa famille. La nouvelle de cet enlèvement a eu un retentissement énorme dans l'opinion publique. Bien que retiré de la vie politique, Paul Vandenbrunans conservait une haute visibilité dans son pays. Ancien président de la démocratie chrétienne, ministre à maintes reprises, personnalité de type populiste, il était connu pour ses talents médiatiques. Unanimement considéré comme un grand communicateur, mais très controversé, c'était aussi un homme d'affaires puissant et influent. Des luttes épiques l'opposèrent à l'administration fiscale et allèrent jusqu'à le conduire devant les tribunaux. Vandenbrunans était connu de tous sous les initiales de VDB, que ses campagnes électorales avait associé à sa personne. VDB avait été conduit par ses ravisseurs dans une maison isolée du nord de la France. Il devait y demeurer pendant un mois, attaché à un lit, avec un bandeau sur les yeux. Une incertitude totale régnait quant au sort qu'il avait subi. Il raconta plus tard qu'il avait vécu cette captivité dans un climat de menaces constantes et d'angoisses continuelles. Des négociations secrètes eurent lieu entre ses ravisseurs et sa famille, et une rançon fut versée. VDB fut alors abandonné en pleine nuit à la frontière belge. Il prit tout simplement un taxi pour rentrer chez lui. Dès que la nouvelle fut connue, les journalistes se précipitèrent à sa résidence. Il commença par refuser de s'exprimer publiquement. Des rumeurs couraient selon lesquelles VDB avait été gravement affecté par l'épisode en dépit de sa réputation d'homme à toute épreuve. Quelques jours plus tard, il convoqua une conférence de presse. À l'heure dite, la presse de l'Europe entière avait envahi un grand amphithéâtre de Bruxelles. VDB parut, s'assit en face de son public et entreprit de narrer par le menu détail la succession des événements dont il avait été victime. Sur un ton mesuré, en parfait contrôle de lui-même, il développa son récit en ménageant des effets d'audience, conscient de l'immense impact médiatique qu'il allait connaître. Pendant 2 heures, c'est une véritable épopée qui fut mise en scène par le talentueux communicateur. Pour chaque phase critique de son aventure aux mains de ravisseurs imprévisibles, son compte-rendu faisait état des pensées et des émotions qu'il avait éprouvées. Naturellement doué pour le théâtre, il modulait ses paroles et ses intonations de manière à s'assurer les meilleurs effets sur son auditoire. Le succès fut total. Le soir même, toutes les chaînes de télévision consacrèrent l'entièreté de leurs journaux au récit de VDB. La trame en était si parfaite que les journalistes n'eurent qu'à découper l'émission selon la succession des phrases et à annoncer chacune de ces phases par une diapositive de titre, comme pour les chapitres d'un livre. La situation s'est répétée dans les quotidiens du lendemain. Celui qui hier encore était la victime que l'on croyait brisée par l'événement venait d'offrir aux médias un récit romanesque sous forme achevée. En mettant en scène sa propre aventure, VDB avait effectivement déployé des talents épiques. Le caractère dramatique de l'épisode, les aspects mystérieux de cette aventure, le ton emphatique du narrateur, ses références continuelles à ses pensées et à ses émotions, les formules chocs auxquelles il eut recours pour exprimer les moments forts, tous ces éléments contribuèrent à susciter chez ses innombrables auditeurs une véritable palette d'émotions. C'est ainsi qu'au cours des semaines qui suivirent, l'histoire était au centre de toutes les conversations. L'émission fut rediffusée à plusieurs reprises et nombreux furent ceux qui l'ont vue et revue. La plupart d'entre eux pouvaient répéter de mémoire les phrases les plus caractéristiques du narrateur. Au cours des conversations quotidiennes, on entendait les gens répéter ces formules en imitant le ton de voix et l'accent typique de l'ancien chef du gouvernement. Chacun connaissait le script et les émotions qui y étaient liées. Un immense ressassement national du drame de VDB était en place. Avec le temps, l'histoire de VDB a infiltré la pensée commune. Après le ressassement initial du drame, des parties du récit présentées sur un mode humoristique ont commencé à circuler. En quelques semaines, sans s'être concertés, plusieurs orchestres de musique rock eurent l'idée d'adopter le récit de VDB comme thème de leurs chansons. Des groupes de rap se mirent à joindre à leur boucle musicale la voix de VDB prononçant les formules les plus célèbres de sa conférence de presse. On eut ensuite la surprise de voir ces musiques prendre la tête du hit-parade national. Le succès était tel que dans certaines boîtes de nuit, le rap de VDB était rediffusé toutes les 10 minutes. Les jeunes du pays entier dansaient au rythme des phrases d'un homme qui mettait en scène son propre drame. Bien que ses chansons et ses musiques se voulaient humoristiques, elles n'en véhiculaient pas moins certains éléments clés du script, et ce, généralement, sur un ton épique non dépourvu d'une certaine admiration. En somme, l'expérience émotionnelle de VDB était entrée dans la légende.
Bernard Rimet raconte cette histoire dans son livre comme l'illustration du processus par lequel les expériences individuelles accèdent à la mémoire collective. Certes, il s'agit d'une histoire exceptionnelle, mais Bernard Rimet s'attache à montrer que toute expérience émotionnelle individuelle connaît un destin analogue. Cela tient, dit-il, du destin commun. L'événement qui concerne aujourd'hui l'un des membres de la communauté peut aussi bien toucher n'importe quel autre membre demain. S'il s'est produit, cet événement entre désormais dans la gamme des possibles. L'arme naturelle dont disposent les êtres humains pour éviter les périls, ce n'est ni la force, ni l'adresse, ni la vélocité, mais bien la capacité d'anticipation. Leur survie dépendra notamment de leur aptitude à communiquer les uns aux autres efficacement et si possible en temps réel ce qui peut arriver. Les émotions ne s'imposent donc pas à l'être humain pour l'aider à mieux subir, mais plutôt à mieux comprendre. Voici, pour conclure, un extrait du livre de Bernard Rimet.
De manière naïve, la psychologie qui s'est développée au XXe siècle procède de l'a priori de l'individualité de l'être humain. Or, le monde est un immense problème, et la vie est un immense problème. Dès le moment où l'humanité a commencé à disposer de la conscience, les dimensions de ce problème ont dû lui apparaître. Il fallait nécessairement élaborer des digues symboliques suffisantes pour rendre la vie viable et développer des transactions avec un monde rassurant. L'entreprise essentielle de l'humanité est d'assurer la préservation de ces constructions. L'humanité se doit d'en détecter à tout moment les failles et les faiblesses. Tout écart qui se manifeste entre l'univers virtuel et les événements du monde constitue dès lors nécessairement une information critique. Or, il n'y a pas d'autre lieu que l'expérience individuelle pour mettre l'univers virtuel à l'épreuve. Comme une brèche dans le décor, l'épisode émotionnel laisse entrevoir la réalité qui se cache derrière la réalité virtuelle. C'est en ce sens-là que chaque émotion de chaque individu est pertinente pour le monde social. L'humanité ne dispose pas d'autre moyen que les émotions des individus qui la composent pour assurer la préservation de ses constructions.
C'est donc en ces termes que Bernard Rimet conclut son ouvrage. Je vous rappelle le titre du livre de ce professeur de psychologie, « Le partage social des émotions ». Ce livre est publié en septembre 2005 aux Presses universitaires de France. L'ouvrage fait 391 pages et il est préfacé par Serge Moscovici. Merci à Fernand Guyot pour la lecture des extraits de ce livre. Bonne écoute de nos émissions sur Canal Académie.